RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Afrique Soir avec Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'ONU réclame une enquête urgente après l'attaque au Soudan d'un convoi humanitaire près de la ville d'Al-Fashir dans la province du Darfour Nord. Attaque qui a fait 5 morts depuis le début de la guerre en avril 2023. 4 millions de personnes ont fui le Soudan. En RDC, une enveloppe de la Banque mondiale relance Inga 3, un projet colossal. Il sommeillait depuis les années 90. Il doit voir la construction du troisième ouvrage hydroélectrique sur le fleuve Congo. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Dans l'actualité également, la signature d'importants accords migratoires entre le Sénégal et la Mauritanie. L'un porte sur la lutte contre l'immigration clandestine, l'autre sur la condition des séjours avec des mesures destinées à faciliter l'installation des Sénégalais en Mauritanie. Nous vous raconterons cette polémique en Guinée. 400 pèlerins de la Mecque victimes d'une vaste arnaque. À Amsterdam, le musée Van Gogh expose pour la première fois un artiste africain, le peintre nigérian John Madou. Et enfin, la sélection musicale d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Au Soudan, l'attaque d'un convoi humanitaire a fait 5 morts hier près de la ville d'El-Fasher dans la province du Darfour Nord. Ce convoi devait livrer de l'aide à cette ville assiégée lorsqu'il a été attaqué. Alexandra Bonjon.
Le convoi comprenait une quinzaine de camions du Programme alimentaire mondial et de l'UNICEF. Il acheminait de l'aide alimentaire et médicale depuis Port-Soudan et était stationné dans la ville de Koma en attendant l'autorisation de se rendre à El-Fasher à 80 km de là. Quand il a été bombardé. Les premiers rapports font état de 5 morts parmi les membres du convoi, des blessés et plusieurs camions détruits avec leur cargaison. Les deux belligérants se rejettent la responsabilité de l'attaque. Ce convoi devait acheminer de l'aide à la population d'El-Fasher. La ville est assiégée depuis 2 ans, dernière capitale du Darfour à être encore aux mains de l'armée. Elle est encerclée par les paramilitaires qui tentent d'en prendre le contrôle. La situation humanitaire y est catastrophique. Des dizaines de milliers d'habitants sont coincés dans la ville, ne peuvent pas fuir et le ravitaillement y est très difficile. Cet après-midi, une porte-parole de l'UNICEF a réagi. Les camions étaient clairement siglés. Toute attaque sur un convoi humanitaire est inacceptable.
Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réagit ce soir. Il réclame une enquête urgente. Depuis le début de la guerre en avril 2023, 4 millions de personnes ont fui le Soudan, selon l'ONU. Beaucoup d'entre elles se sont réfugiées dans les pays voisins. Ainsi, dans l'est du Tchad, le nombre de ces réfugiés atteint 1,2 million de personnes en moyenne. 1 400 personnes franchissent la frontière chaque jour, estime le HCR, en raison des attaques autour d'El-Fasher, mais aussi des camps de réfugiés. Dossou Patrice Aou Ansou, coordonnateur principal de la situation soudanaise à l'est du Tchad pour le HCR, avec Florence Maurice.
Pour les abris qui permettent déjà d'accorder une protection physique, nous arrivons seulement à répondre à 14% des besoins. Seulement 14% des besoins. L'eau, on arrive à fournir seulement 5 litres d'eau par jour, alors que le standard, c'est entre 15 et 20 litres. Donc 5 litres d'eau, vous voyez très bien qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Boire, se laver, cuisiner, c'est extrêmement compliqué. Autre chose, c'est que 14% d'enfants sont en situation de malnutrition. Et puis, on a quoi? Un centre de santé pour 110 000 personnes. Et malheureusement, à ce jour, on a encore près de 290 000 qui sont à la frontière à attendre d'être localisés. Il faut trouver la terre, il faut trouver les abris pour pouvoir leur donner un toit. Et il faut trouver des moyens aussi pour pouvoir transporter les gens. Donc, la logistique est aussi un grand défi. Puis la saison des pluies approche et c'est ça la plus grande inquiétude aujourd'hui. Et on risque d'être coupé sans accès physique quoi aux personnes qui sont en détresse.
Voilà, et selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 72% des personnes qui ont trouvé refuge ont signalé de graves violations des droits humains, y compris des violences sexuelles. Au Tchad, l'ancien Premier ministre et opposant Succès Masra a été entendu ce mardi sur le fond pour la première fois depuis qu'il a été arrêté le 17 mai à N'Djamena. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a procédé à son audition à la coordination générale de la police judiciaire. Le président du parti Les Transformateurs a été écroué depuis son inculpation pour incitation à la haine et à la révolte. Succès Masra est accusé d'avoir incité au massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs le 4 14 mai dans sa région natale du Logone occidental. Accusation rejetée par sa défense. Elle dénonce des poursuites à caractère politique. Maître Francis Kadji Lembaye, écoutez-le, cette première audience s'est bien passée.
C'est pour la première fois que notre client vient d'être entendu au fond par le juge d'instruction. Et je peux affirmer que tout s'est bien passé. L'interrogatoire, au fond, s'est déroulé sans encombre. Nous attendons la suite de l'instruction. Pour le moment, nous sommes en instruction, nous ne pouvons pas en dire plus. Nous disons simplement, pour la journée, ça s'est plutôt bien passé, sans problème, et nous restons confiants. Il a le moral, il avait le moral, il a su répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. On espère qu'il va continuer à garder le moral jusqu'à la fin de la procédure en cours.
Maître Francis Kadji Lembaye.
RFI à Kinshasa. 105 FM.
La politique en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu a surpris en déclarant hier qu'il voulait rencontrer le président Tshisekedi. Il y a tout juste un mois, il signait un communiqué conjoint avec Joseph Kabila dans lequel il critiquait le pouvoir en place. Alors, comment expliquer ce revirement? Élément de réponse avec Patient Legaudy.
Martin Fayulu a longtemps hésité à s'afficher aux côtés de Joseph Kabila. Ce n'est qu'après des échanges indirects que les deux hommes ont fini par se mettre d'accord pour signer ensemble, aux côtés notamment de Moïse Katumbi et d'Elise Sanga, un communiqué commun. Cependant, chacun semblait avoir sa propre vision. Du côté de Joseph Kabila, cette signature commune avec Martin Fayulu était perçue comme un moyen de donner une image d'inclusivité à la démarche anti-Tshisekedi afin de ratisser large de l'est à l'ouest du pays. Pour sa part, Martin Fayulu a expliqué à RFI qu'il avait signé le document avant tout parce qu'il était opposé au deal minier en négociation entre Kinshasa et Washington. Depuis cette signature, aucun contact direct n'a eu lieu d'après plusieurs sources. Martin Fayulu affirme ne pas avoir été au courant des déplacements de Joseph Kabila à Goma et à Kigali. Il ajoute que la ligne rouge a été franchie. Pour lui, il n'est pas question de s'allier avec les agresseurs, encore moins avec le M23 qu'il associe à un projet de balkanisation. Du côté de Kabila, on dit comprendre que Fayulu n'a jamais digéré le fait que le pouvoir lui ait échappé et qu'il n'accepte pas l'idée d'être sous le leadership de l'ancien président. Ils entendent, disent-ils, mettre fin à la dictature avec ou sans Fayulu. Fin de citation.
La RDC ou le ministre de la Justice, Constant Mutamba, soupçonné de détournement de fonds publics, a été entendu cet après-midi. Le garde des Sceaux est ressorti libre et sera auditionné vendredi. Constant Mutamba est accusé d'avoir détourné près de 30 millions de dollars liés au projet de construction d'une prison à Kisangani. Des proches du ministre dénoncent un acharnement. En RDC, où l'on reparle d'Inga 3, ce projet en sommeil depuis les années 90, ce mardi, la Banque mondiale a approuvé une enveloppe pour aider Kinshasa à réaliser un troisième ouvrage hydroélectrique sur le fleuve Congo. Il y en a déjà deux, inaugurés en 72 et en 82. Et le coup de pouce de la Banque mondiale, 250 millions de dollars, première tranche d'une enveloppe globale d'un milliard de dollars, relance de fait ce projet. Charlotte Cossé.
L'objectif, présenter concrètement aux autorités les différents scénarios en répondant à plusieurs grandes questions. Quelles sont les options techniques, les impacts sociaux et environnementaux de chacun d'entre eux, quel est le marché disponible réel et quelles sont les options de financement. À partir de cela, la Banque mondiale estime que les autorités congolaises pourront faire un choix avisé. Ce que l'on sait déjà, le projet peut être calibré de 2 à 11 gigawatts de production. Il s'agira d'alimenter la région du Congo central jusqu'à Kinshasa, avec une possibilité d'exportation jusqu'à l'Afrique du Sud. Inga 3 doit créer de l'emploi et engager un ensemble de transformations économiques. Déjà, des réformes de la Société nationale d'électricité sont en cours, par exemple. Une attention particulière sera portée sur les retombées pour les communautés riveraines, estimées à plus d'un million d'habitants, ce qui avait manqué lors des deux premières phases d'Inga. Aujourd'hui, 21% de la population congolaise a accès à l'électricité. Les autorités espère dépasser les 60% d'ici 2030.
Alors on parle souvent de ce projet comme étant un serpent de mer. Qu'est-ce qui explique les difficultés à faire avancer Inga 3? Charlotte Cossé a posé la question à l'analyste économique congolais Al Kitenge.
Je crois que la République démocratique du Congo s'est souvent trompée sur la question. Pour faire un si grand projet, il faut en avoir un engagement ferme, mais aussi un leadership ferme. Et ce leadership, de mon point de vue, devait être celui du gouvernement, qui doit être en mesure de dire qu'est-ce qu'il veut réellement en faire, en combien de temps. mais également tout un parterre de partenaires avec lesquels ils désirent travailler. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler avec la Banque mondiale comme conseil. La Banque mondiale n'est pas exécutante de la construction de barrages ni opérateur de barrage. Il faut donc être en mesure de déterminer le rôle de chacun. Et ça, pendant très longtemps, ça manquait. Des projets sur Inga 3 et les autres, on en a eu plusieurs. Il y a toujours eu des points de chute et c'est dramatique. C'est toujours les mêmes choses. Des acteurs qui flottent, les responsabilités non clarifiées, mais également une gestion de projets catastrophiques. C'est tout ce qu'il faut être en mesure de reconnaître. Et j'espère beaucoup que la touche de la Banque mondiale et d'Albert Zoeffer, ça peut être un véritable élément d'accélération des résultats.
Alors, qu'est-ce qu'il va falloir à la RDC pour aller au bout de ce projet?
La première des choses que la RDC devrait avoir, c'est un plan stratégique pour les 30 prochaines années qui montrera à tout le monde où on désire aller et qui donnera un horizon aux investisseurs qui viendront chez nous, qui comprendront qu'il ne s'agit pas de travailler dans un mandat d'un président de la République, mais plutôt de travailler dans un plan stratégique du pays. Deuxième chose, il faudra moderniser la République démocratique du Congo en la rendant plus performante en termes administratifs. Ceci aura pour effet induit la réduction des risques de corruption pour favoriser la fluidité de la capacité des opérateurs économiques à travailler en République démocratique du Congo.
C'est un projet à plusieurs milliards de dollars. Pour vous, comment peut se faire son financement?
Ça doit absolument être un panier d'investissement. Et nous avons la possibilité de recourir à des investissements publics locaux, patriotiques locaux et internationaux, la diaspora, mais également recourir à ce qu'on appelle les bons d'investissement qui pourraient être des bons qui attirent des capitaux du monde entier. Et là-dessus, les privés comme les miniers devraient être une partie de la solution. Les industriels qui viennent s'installer dans les zones économiques spéciales devraient être une partie de la solution parce que cette énergie va leur servir. Et cette opportunité de Inga 3 et les autres phases de Inga devraient être une accélération nécessaire à l'économie congolaise.
Al-Kitangé, l'analyse économique congolais avec Charlotte Cossé. En bref, en Côte d'Ivoire, au moins 5 détenus ont été tués. Il y a également 29 blessés, parmi lesquels 6 agents pénitentiaires. C'est le bilan d'un affrontement survenu entre les forces de l'ordre et les prisonniers dans la maison pénale de Boaké ce mardi. Selon le procureur de la République, les gardiens effectuaient une fouille de routine dans les cellules lorsqu'ils auraient été attaqués par des détenus armés de gourdins. La gendarmerie et la police nationale sont intervenus pour rétablir l'ordre. Le Sénégal et la Mauritanie s'entendent pour mieux réglementer la circulation de leur population. Des accords migratoires ont été signés entre les deux pays. Ils portent sur l'immigration clandestine et sur les conditions de séjour. Et parmi les points très attendus figurent des mesures pour faciliter l'installation des Sénégalais en Mauritanie. Léa Lisa Westerhoff.
Pour tout séjour, au-delà de 3 mois, les Sénégalais comme les Mauritaniens ont désormais l'obligation de demander une carte de séjour. Mais cette carte pourra être accordée sans contrat de travail et sans justificatif de revenus pour une durée d'un an. Ensuite, seulement il faudra justifier de revenus pour la renouveler. Cet accord qui remplace celui qui datait de 1972 était très attendu, notamment après la vague d'expulsion qualifiée d'indigne par la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall en février dernier. Elle avait alors parlé de traitements inhumains subis par les personnes expulsées. Dans le texte signé hier, le Sénégal et la Mauritanie s'engagent à lever tout obstacle à la libre circulation des ressortissants de chacun des deux pays. Pour les milliers de pêcheurs sénégalais qui travaillent en Mauritanie, c'est une bonne nouvelle. La ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Yacine Fall, s'est également réjouie de cet accord.
Ça, c'est un pas très important parce que ça reflète d'abord l'engagement de nos chefs d'État. Ces deux accords nous permettent de faire en sorte que les populations sont en mesure de se déplacer et de contribuer au développement.
Enfin, un deuxième accord sur la lutte contre la migration clandestine doit permettre de mieux coordonner les efforts de la Mauritanie et du Sénégal pour éviter les départs clandestins. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
La polémique en Guinée, 400 pèlerins de la Mecque victimes d'une vaste arnaque, une vaste escroquerie. La police a présenté hier soir à la télévision nationale une femme qui aurait extorqué plusieurs milliers d'euros à ses victimes en se faisant passer pour quelqu'un étant proche du pouvoir. L'affaire a pris une dimension telle que le porte-parole de la présidence, le général Camara, a dû s'exprimer à Conakry, dans Guinée.
La police a présenté hier soir à la télévision nationale une dame soupçonnée de s'être fait passer pour une proche de la mère du chef de la transition Mamadi Doumbouya et à qui les victimes ont payé plusieurs milliers d'euros pour faire le Hajj en Arabie Saoudite. Les 416 victimes, constituées en collectif, se sont rendues fin mai à la direction centrale de la police judiciaire pour porter plainte. C'est à cette occasion que leur porte-parole Amara Silla a exposé les détails de l'arnaque. Selon lui, elle s'est déroulée à la mosquée Fossidet de Conakry, l'une des mosquées sélectionnées par la Ligue islamique de Guinée pour l'organisation du Hajj. Pour Amara Silla, toujours, les victimes de l'arnaque ont fait face à un réseau d'escroqueries bien structuré. Les victimes faisaient leur formation avec des religieux qui leur assuraient qu'ils iraient à la Mecque. Des uniformes leur ont même été distribués et des vaccins leur ont été prodigués. L'affaire a pris une ampleur telle que le porte-parole de la présidence Amara Camara a dû promettre hier soir que la justice sera rendue et que les victimes obtiendront réparation. Il assure que l'an prochain, les victimes pourront s'inscrire gratuitement pour le Hajj et pour éviter tout problème dans cette initiative, le CNRD mettra en place, je cite, « une commission de recensement ». Tanguy Bihan, Conakry, RFI.
Le football, les Léopards de la RDC s'apprêtent à jouer deux matchs amicaux, jeudi contre les Aigles du Mali, puis dimanche face au Baréa de Madagascar. Ces matchs vont se jouer sans Gal Ayel Moukao, qui n'a pas répondu à la convocation de Sébastien De Sabre. Le staff technique a donc exclu le milieu défensif du LOSC de ce rassemblement. Olga Massangou.
Par ce manquement, le joueur enfreint le règlement intérieur en vigueur. En conséquence, le staff technique a pris la décision de mettre fin de manière anticipée à toute éventualité de retour du joueur dans le groupe pour cette période internationale. Peut-on lire dans le communiqué de la FECOFA rendu public lundi, un jour après le début du rassemblement. Moukao fait partie des 26 joueurs appelés par Des Sabres pour le stage du mois de juin qui va déboucher sur deux matchs amicaux importants contre le Mali et contre Madagascar. Une troisième convocation en équipe nationale que le milieu de terrain a déclinée et qui lui vaut cette sanction. Cette situation fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le milieu du football à Kinshasa. D'aucuns la lient aux deux dernières rencontres des Léopards dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde contre le Soudan du Sud et contre la Mauritanie. Deux matchs remportés par la RDC mais que n'a pas disputé le milieu de terrain de Lille. Il est resté sur le banc. D'ailleurs, dès son retour en club, certainement en signe de protestation, Moukao avait retiré des réseaux sociaux tout ce qui pouvait le lier à la RDC. De son côté, Sébastien De Sabre est revenu sur l'intégration des jeunes joueurs qui doit se faire progressivement. « Ce n'est pas parce qu'on s'impose en club qu'on s'impose en équipe nationale », a-t-il dit lors de sa dernière communication. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Partons dans le nord du Ghana où depuis près d'un an, les paysans peuvent cultiver et commercialiser un niébé génétiquement modifié, aussi appelé haricot à l'œil noir. Selon les chercheurs, cette variété résiste mieux aux aléas du climat ou encore aux parasites responsables de pertes. Mais certains fermiers craignent d'être aujourd'hui dépossédés de leur organisation traditionnelle. C'est Afrique Éco avec Victor Cariou.
Plus de résistance face aux ravageurs de culture, moins de pesticides, un rendement jusqu'à 4 fois supérieur à sa variété traditionnelle. Voici les promesses du niébé BT, cette légumineuse génétiquement modifiée commercialisée depuis juillet 2024 au Ghana. Jérine Bionnet est l'un des chercheurs ghanéens qui ont conçu cette variété.
C'est le fruit d'un travail collaboratif avec le Burkina Faso et le Nigeria. Nous avons négocié ensemble auprès de Bayer Monsanto pour avoir accès au gène avec lequel nous avons développé le niébé.
Selon le chercheur, les premières récoltes en octobre 2024 ont été un réel succès. Ce, malgré une sécheresse intense provoquant de nombreuses pertes chez les fermiers ayant planté le niébé traditionnel. Mais au-delà du rendement, Jérine Bionnet espère surtout préserver la santé des agriculteurs.
Les fermiers ne souffriront plus de l'empoisonnement lié à l'usage de pesticides. Même chose du côté du consommateur. L'empoisonnement dû aux insecticides présents sur le niébé que l'on a acheté appartiendra au passé.
D'autres acteurs de l'agriculture ghanéenne craignent au contraire que ces nouvelles variétés provoquent une multiplication du risque sanitaire. Parmi eux se trouve l'Association des fermiers paysans du Ghana, forte de plus d'1 million de membres à travers le pays. Awal Wepia en est le président. Il craint également une dépossession de la production au profit de multinationales du génie génétique.
Cela risque de détruire notre système traditionnel de distribution de graines. Nous avons des producteurs de graines. Si on introduit les cultures OGM, bien entendu que cela va supprimer leur travail. Les vrais problèmes à régler sont l'irrigation, la valeur ajoutée des cultures, la mécanisation et le marketing.
Réunis en coalition, les anti-OGM ont saisi la justice ghanéenne à deux reprises sans succès. Les tribunaux ont néanmoins insisté sur la nécessité de respecter le droit en vigueur par un corps législatif complet, selon Samuel Amofa, chargé de communication à l'Autorité nationale de biosécurité, la NBA.
Nous avons la loi de biosécurité, également la régulation sur la biosécurité, qui prévoit les lignes directrices sur ce qu'on peut cultiver. Nous sommes également signataires de nombreux protocoles internationaux en vigueur dans le monde entier.
À ce jour, le Ghana a autorisé la commercialisation de 14 autres cultures OGM de maïs et de soja. Victor Cariou, Accra, RFI.
Le musée Van Gogh à Amsterdam accueille pour la première fois un artiste africain. Il s'agit du peintre nigérian John Madou. Et Laurent Corot, cette exposition présente 10 tableaux qui dialoguent avec les œuvres de l'illustre aîné Vincent Van Gogh.
Oui, Sylvie, 10 œuvres créées par Madou dans son studio de Lagos, 10 œuvres qui reprennent et modifient 7 tableaux célèbres de Van Gogh, qui jouent avec ces tableaux et qui leur donnent au final un nouveau sens. Dans No Food for Lazy Men 2, pas de nourriture pour l'homme paresseux, John Madou s'empare du tableau du restaurant à Asnières, peint par Van Gogh, et il y ajoute un homme porteur d'une chaise en plastique. Dans Table Number 2, table numéro 2, eh bien, il place la nature morte de Van Gogh, carafe et plat aux agrumes, dans un contexte plus large, celui d'une chambre ouest-africaine, où un homme semble absorbé par la lecture d'un cahier. Au travers de cette série, qui est intitulée Paint Your Path, peint ton chemin, Madou dit en fait ses liens personnels à l'œuvre de Van Gogh, une œuvre dont il a fait la découverte au travers des calendriers de peinture impressionniste de son père, et qui lui permet, dit-il, de créer un pont entre les récits locaux et un public mondial. Alors, ce n'est pas la première fois que ce peintre nigérian, âgé de 42 ans, fait dialoguer son travail et celui de peintres occidentaux. Il a déjà, par le passé, créé des tableaux inspirés de Gustav Klimt, Edward Hopper ou Norman Rockwell.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et le globe-trotteur d'Afrique Soir, aussi ambianceur, est avec nous ce soir en direct de Libreville au Gabon. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir à l'inamovible reine de l'info, Sylvie Berruet.
Oui, restez calme, hein, je garde la maison votre absence. Bon, dites-moi, je vois que la sélection de l'Afroclub est très relevée aujourd'hui. Ça va commencer avec les artistes camerounais Magasco et Mimi.
Oui, Magasco, l'enfant de Bamenda, toujours prêt à faire danser le public. Et cette fois, c'est en duo avec sa compatriote Mimi, la native de Douala, qu'il dévoile la chanson Dirty Wine. Cette collaboration produite par Bamenda Boy Records, la société de Magasco, est un mélange d'afro dancehall et de compas. L'ambiance sensuelle et entraînante se ressent tout le long du morceau avec des paroles qui célèbrent l'amour et l'attraction.
Do you like bed breezy, Mr. Chef, your panty? Yeah, no say, then I go give you plenty. Yeah, me no say, people they call you auntie, but when I rip it up, girl, you go call me uncle. Fears me, baby, love me like maybe. You be now one of a kind, be my sherry. Kick man or a pam pam if you pay me. Yes, now me love be that. Baby girl, you know the foresee. So elastic.
Et après le Cameroun, on part en Côte d'Ivoire, Hervé, avec cette fois le rappeur Elon qui lui propose un titre très énervé.
En effet, Sylvie, Elon opère un retour en force et en puissance avec un nouveau single, Bolide Nerveux. Le sociétaire du groupe Kiff No Beat revient à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire du rap ego trip empreint d'ironie. Bolide Nerveux est un morceau qui met en évidence le style distinctif d'Elon avec l'énergie qu'on lui connaît, toujours soucieux de repousser ses limites, et il s'est même chargé lui-même d'écrire les paroles de Bolide Nerveux.
Tant que tu me tailles bien, que tu ne craches pas, je vais jamais me fâcher. Je claque des kilos tous les mois depuis 10 ans, je suis toujours pas fauché. Ça a fini en distract. à cause de mes textes. Les gars nous ont sucé, ils n'ont jamais percé, alors ils sont devenus haters. Mon pied est une caillou, je mougou le game. Une fois, deux fois, une pierre, deux coups. Je suis pas dans les hauts des Joga Bonito. Visa, Lucan, Jérémy Doku. Dans Rap Ivoire, on n'a pas peur de Bouba. Ici, c'est notre Adam Anator. Vu que t'es vilain, t'es même pas en statut. Elle t'appelle que pour demander des pots. Le bolide
est nerveux. Ah oui, il est vraiment très énervé, hein, Hervé. On va faire escale au Rwanda à présent avec l'étoile montante Run Up qui provoque un véritable raz-de-marée avec son tsunami.
Oui, je me demande vraiment qui écrit vos relances, Sylvie. Run Up est un chanteur et auteur-compositeur de la scène émergente rwandaise qui s'est fait remarquer par son style afro-pop urbain, très mélodique, et il a réussi à asseoir sa notoriété au Rwanda et dans la région est-africaine, avec son dernier single notamment Tsunami, qui est donc un raz-de-marée d'émotion avec une note d'électro dans laquelle les sentiments amoureux sont comparés à une vague déferlante.
Come on, so since this and I don't talk. Crazy in love, night and day to hold on. Memories of many things, boy, one could not need your mind. Could not need your mind, yeah.
Oui, très sympa le rendez Run Up. Alors, on va finir au pas de course. Hein. Là, c'est la fin de votre sélection, Hervé. Et vous avez choisi Mr. P du Nigeria en duo avec Stone Boy du Ghana.
Oui, Peter Okoye, alias Mr. P de P-Square, a fait un comeback remarquable avec le remix de la chanson Odo, sur laquelle le Ghanéen Stone Boy pose également sa voix. Et pour la petite histoire, Mr. P avait envisagé de réaliser ce remix avec le rappeur américain et gabonais Ludacris. Malheureusement, sans succès, faute de temps, et c'est ainsi qu'il a décidé de contacter Stone Boy, qui lui a livré son couplet en un jour. Une idée qui s'est avérée fructueuse et la chanson est devenue un succès phénoménal. Odo signifie amour en langue akan et ça tombe bien en ce moment, on n'en manque pas.
Ma chérie no dey lie to me. Now she dey try for me. Ma chérie no dey lie to me. She said, no time to dey fun for me. She said she go follow me. You wanna wake up next to me. She said, all I ever want is you. Baby, let's get so freaky tonight.
Et c'est avec Mr. P et Stone Boy que nous refermons les portes de l'Afro Club de ce mardi 3 juin. Avec vous, Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Toute la rédaction d'Afrique Soir vous adresse ses félicitations, cher Hervé. Une sélection disponible sur l'application RFI Pure Radio.
Et aussi sur RFI.fr, merci à toute l'équipe. Et jeudi, on écoutera du Mali, de l'Afrique du Sud et de la RDC. Et d'ici là, c'est avec Raphaël Azizi à la technique, Alexis Guilleux à la rédaction en chef, Guillaume Bédran à la coordination et Sylvie Buret aux commandes. Que vous passez une excellente soirée sur RFI.
Behind me like you only. Nothing could fit come between us. No bag of fits come between us. I tell you say that you hey I need. You say all I ever want is you. Baby let's get so freaky tonight. Baby make you open the door. If you with me it's alright. As long as you go give me some more. I'm so in love. Now you they make me go go. Baby I'm so in love. Now you they make me go slow. Oh yeah, auto, I give you love in auto. Open up the door, my auto. You dey make me that but now auto.
Et c'est ainsi que s'achève Afrique Soir, dernière édition. Ce rendez-vous avec DJ Facemaker est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.
jeudi, vivez les demi-finales de la Ligue des Nations sur RFI, Cédric De Oliveira.
C'est le retour de l'équipe de France. Les Bleus de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé affrontent l'Espagne de Lamine Yamal pour une revanche du dernier Euro. L'an dernier, la Roja l'avait emporté. Sera-t-elle la plus forte encore une fois à Stuttgart en Allemagne ? Espagne-France, demi-finale de la Ligue des Nations. Rendez-vous ce jeudi sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
La curiosité et l'esprit scientifique des enfants sont sans limite. Mais savons-nous les cultiver ?
Jeudi.
Comment les femmes peuvent développer l'économie alors qu'elles sont partout dans tous les secteurs minoritaires ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.